إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on se retrouve donc aujourd'hui pour continuer la lecture et l'étude de cet épître de l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, intitulé « Leçons importantes pour toute la communauté ». Nous allons voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, la quatrième leçon intitulée « Les catégories de tawhid et de shirk » que vous pouvez retrouver à la page 15 sur le livret PDF. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a donc dit « Les catégories d'unicité, les catégories de tawhid, sont au nombre de trois. L'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans la divinisation et l'unicité dans les noms et attributs. » Donc l'unicité à tawhid, d'un point de vue général, il consiste à croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à croire qu'Allah est unique. Et qu'il est unique dans quoi? Dans sa seigneurie, dans sa divinisation, c'est-à-dire son droit à être adoré exclusivement, et dans ses noms et ses attributs. Et le tawhid, il s'oppose au shirk, qui est son contraire, qui consiste, lui, à donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans une de ces trois choses. On va donc voir tout d'abord, inshallah ta'ala, les trois catégories de tawhid, puis on verra ensuite les catégories de shirk. Donc l'auteur, il dit premièrement, l'unicité dans la seigneurie consiste à croire qu'Allah est le créateur de toutes choses, qu'il administre toutes choses et qu'il n'a pas d'associé en cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers. C'est-à-dire que tout ce qui existe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie d'Al-Alamin. Cela signifie qu'Allah est son créateur, que toute créature fait partie du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose est sous sa souveraineté. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui accorde la subsistance à toute créature. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Et également, c'est lui qui administre tout dans cet univers. Et la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en réalité une chose indéniable. C'est-à-dire que personne ne renie vraiment la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est par orgueil, mais sans être réellement convaincu. À l'exemple de Pharaon, vous savez que Pharaon, il prétendit être le Seigneur. Il dit « Ana Rabbukum al-A'la »« Je suis votre Seigneur le Très-Haut » et il prétendit renier la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en réalité, il n'était pas convaincu de cela. Au fond de lui-même, il reconnaissait avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet dans le verset 14 de Surat An-Naml: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Et telle est la situation de ceux qui prétendent, jusqu'à aujourd'hui, renier la seigneurie ou l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au fond d'eux, ils ne sont pas convaincus de cela. Et c'est pour cela que tu trouveras les athées, ceux qui prétendent que cet univers n'a pas de créateur, n'a pas de pourvoyeur, et ainsi de suite. Ils attribueront toujours la création à une chose. Ils vont l'attribuer à une force, à la nature, ou d'autres choses encore, car au fond d'eux, ils savent que cet univers a un créateur qui administre toutes choses. Mais leur orgueil les empêche de reconnaître que ce Seigneur est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les premiers polythéistes, comme ceux vers lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien qu'ils lui donnaient des associés dans l'adoration, ils reconnaissaient avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de l'univers. Toutefois, ceci ne les fit pas entrer en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet dans Surat al-Mu'minun, à partir du verset 84. « قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » Dis, à qui appartient la terre et ceux qui y sont si vous savez? « سَيَقُولُونَ لِلَّهِ » Ils diront, « À Allah, قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ » Dis alors, ne vous souvenez-vous donc pas? « قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ » Dis, Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, ils appartiennent à Allah. Dis, ne le craignez-vous donc pas? قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Dis, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? Dites si vous le savez. Ils diront, c'est Allah. Dis alors, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés, c'est-à-dire au point de ne pas croire en lui? Donc ceci était une chose reconnue par les polythéistes vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et ceci nous indique que le fait de croire en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien que ce soit une obligation et que cela soit une catégorie importante parmi les catégories de tawhid, d'unicité, ceci n'est pas suffisant pour que la personne entre en islam. Mais pour entrer en islam, il est indispensable que la personne reconnaisse l'ensemble des catégories de tawhid, et notamment la deuxième que l'on va voir juste après, qui est l'unicité dans la divinisation. Donc il y a en cela une réfutation de ceux qui prétendent jusqu'à nos jours qu'il suffit de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur pour faire partie des croyants, comme on l'entend de certains ignorants qui disent « mais celui-ci, il croit en Dieu, il sait que Dieu l'a créé ». Mais ce n'est pas cela qui fait la différence entre le croyant et le mécréant. Ce qui fait la différence, c'est l'unicité dans la divinisation, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, il nous dit, rahimahullah, la deuxième, c'est-à-dire la deuxième catégorie de tawhid, d'unicité, c'est l'unicité dans la divinisation, qui consiste à croire qu'Allah est le seul endroit d'être adoré et qu'il n'a pas d'associé en cela. Et ceci est le message fondamental de la religion de l'islam. En effet, qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh après? Ceci est le sens de la ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. La parole par laquelle la personne passe de l'obscurité de la mécréance à la lumière de l'islam. Quelle est cette parole? La ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. Le fait de reconnaître, de croire avec certitude que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré et qu'il n'a aucun associé en cela. Ensuite, il dit, rahimahullah, par conséquent, il est obligatoire de lui vouer exclusivement toutes les adorations. Toutes tes adorations, elles doivent être vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahimahullah, comme la prière, le jeûne et autres parmi les adorations. Et il est interdit d'en vouer quoi que ce soit à autre que lui. Car celui qui voue ne serait-ce qu'une seule adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait alors partie des polythéistes. Car il aura commis de l'association majeure dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Donc comme on l'a vu dans la leçon 2, dans l'explication de la ilaha illallah, l'unicité dans la divinisation, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est le message fondamental de l'islam. Il est obligatoire pour nous de vouer l'ensemble de nos adorations sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, en ne lui donnant aucun associé en celle-ci. Tu lui voues exclusivement tes prières, tu lui voues exclusivement ton jeûne, tu lui voues exclusivement tes aumônes, tu lui voues exclusivement tes prosternations, tu lui voues exclusivement tes invocations, mais également, tu lui voues exclusivement ta peur, ton espoir, ta confiance, ton amour, et ainsi de suite, parmi les différentes formes d'adoration qui toutes doivent être vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ce type de tawhid, pour cette catégorie de tawhid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'ensemble des djinns et des hommes. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le sens de pour qu'ils m'adorent ici, cela signifie que pour qu'ils m'adorent exclusivement, c'est-à-dire sans ne me donner aucun associé. On voit donc que ce tawhid, c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et c'est même la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les livres et a envoyé des messagers alayhi salatu wa salam. Tous sont venus à leur peuple pour appeler à ce type de tawhid, pour appeler à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit à différents passages de son noble livre, que différents messagers ont dit à leur peuple, « U'budullah ma lakum min ilahin ghayruh » Adorez Allah, c'est-à-dire vous un culte exclusif à Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. C'est-à-dire que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَجَتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Pourquoi il a été envoyé? Pour leur dire: adorez Allah, c'est-à-dire vous un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et écartez-vous du tarout, écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même Isa, même Jésus, alayhi salam, il est venu avec ce message. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, au sujet de Isa alayhi salam, qu'il dira à Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. Mais je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de dire, c'est-à-dire adorer Allah, vous un culte exclusif à Allah, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Ceci est donc le message de l'ensemble des prophètes et des messagers alayhi salatu wa salam, de Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à cause de ce message que les polythéistes ont rejeté l'appel des prophètes alayhi salatu wa salam. Et c'est pour cette raison que les gens se sont divisés en croyants et en mécréants. Donc on voit que ce type de tawhid, c'est le type de tawhid le plus important. Le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de n'adorer nul autre que lui. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit: troisièmement, l'unicité dans les noms et attributs consiste à croire en tout ce qui est mentionné dans le noble Coran et les hadiths authentiques comme noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit à travers cela que les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une chose qui se déduit de la raison ou de la réflexion, mais c'est une science qui est puisée des textes du Coran et de la sunna authentique. À partir de là, on sait que tout ce qui est venu dans le Coran comme nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire pour nous d'y croire. Et également, tout ce qui est venu dans la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à partir du moment où le hadith nous est rapporté d'une chaîne de transmission authentique qu'il mentionne un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ou un de ses attributs, alors il est obligatoire pour nous d'y croire. Et le shaykh rahimahullah ta'ala nous donne des détails au sujet de la manière de croire en ces noms et ses attributs. Il dit: ils sont affirmés pour Allah seul. Ceci est le premier point. Ils sont affirmés pour Allah seul, subhanahu wa ta'ala, en dehors de tout autre que lui. Deuxièmement, à la manière qui lui convient. À la manière qui convient à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui convient à sa grandeur et qui convient à sa majesté. Et quelle est cette manière? Il nous dit, rahimahullah, sans altération, ni négation, ni description du comment, ni assimilation. C'est-à-dire que tout ce qui nous est rapporté dans les textes concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas permis de les altérer. Et l'altération, elle comprend aussi bien l'altération des termes, en modifiant des lettres par exemple, ou alors l'altération du sens, en altérant le sens des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci n'est pas permis, mais nous devons y croire tels qu'ils nous sont mentionnés dans les textes. Également sans négation. En effet, il y en a parmi les gens, parmi les groupes égarés, qui rejettent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres rejettent les attributs, d'autres rejettent certains attributs et ainsi de suite. Donc les gens de la sunna et du groupe, les gens de la vérité, ceux qui s'accrochent à la religion sur laquelle était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sur laquelle l'ont suivi ses nobles compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils affirment pour Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui est mentionné dans le Coran et la sunna authentique comme nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sans aucune négation, c'est-à-dire ni en niant ses noms et ses attributs, ni en niant leur sens. Également, il nous dit sans description du comment, c'est-à-dire qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des mains, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône. Et tout ceci, nous y croyons de la manière qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala, telle qu'elle est venue dans les textes, sans dépasser ce qui est mentionné textuellement dans le Coran et la sunna authentique. Quant au comment, nous n'en avons pas connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informé de cela. Il est donc interdit pour nous de chercher à s'imaginer ou à décrire le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce sujet, vous connaissez certainement l'histoire très célèbre de cet homme qui a interrogé l'imam Malik rahimahullah ta'ala au sujet de l'attribut de l'istiwa, l'élévation au-dessus du trône. Il lui dit, « Oh imam, ar-Rahman, ala l'arsh istawa, kayfa istawa ?» Ar-Rahman, le tout miséricordieux, s'est élevé au-dessus du trône. Comment s'est-il élevé? Alors, l'imam Malik rahimahullah ta'ala fut pris de colère, à tel point qu'il est mentionné dans certaines narrations qu'il devint rouge et que de la sueur coulait sur son visage. Puis il dit, rahimahullah, al-istiwa ma'loum, l'élévation, c'est une chose de connue. Nous connaissons le sens de l'élévation. Dans la langue arabe, on reconnaît le sens d'al-istiwa. Wal-kayf majhoul, le comment, il nous est inconnu. Wal-imanu bihi wajib, le fait d'y croire est une obligation. Wa-su'alu anhu bid'a, et le fait d'interroger à ce sujet, au sujet du comment, est une innovation. Puis il ordonna de faire sortir cet homme, et il dit, « Je te vois comme un homme mauvais. » Regardez comment il a blâmé cet homme à cause de cette question, au sujet du comment d'un des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On sait donc que tous ces attributs, on s'y doit d'y croire, de les affirmer tels qu'ils sont venus dans les textes, sans chercher la description du comment de cela. Et le quatrième point qu'il a mentionné, c'est « ni assimilation ». L'assimilation, c'est-à-dire de penser que ces attributs sont semblables aux attributs des créatures. Comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit, il entend. Parmi les créatures, certaines voient et entendent. Mais est-ce que leur ouïe et leur vue sont semblables à l'ouïe et la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est non. Car Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs sont des attributs de perfection. Nous ne devons donc pas assimiler les attributs des créatures aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous avons la ferme conviction qu'il est unique en ses noms et ses attributs subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, mettant en pratique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Dit, il est Allah unique. Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Il n'a pas de semblable, il n'a pas d'égal. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Ceci est le sens de Samad. C'est le seul vers lequel se dirige l'ensemble des créatures pour leur demande. Il n'a jamais engendré, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'enfant, et il n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun égal dans ses noms et dans ses attributs subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite ainsi que sa parole, « Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. » Rien ne lui ressemble, et il est celui qui entend et qui voit. Méditez sur ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala commence par nous dire que rien ne lui ressemble, c'est-à-dire que ses créatures ne peuvent être assimilées à lui. Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans son essence, mais également dans ses noms et ses attributs. Rien ne lui ressemble. Wa huwa as-sami'u al-basir. Et il est celui qui entend et qui voit. Donc ici, il nous affirme qu'il entend et qu'il voit. Donc l'ouïe et la vue font partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette ouïe et cette vue ne sont pas semblables à l'ouïe et la vue des créatures, car laysa kamithlihi shay, car rien ne lui ressemble subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est un résumé des choses nécessaires à connaître au sujet de cette catégorie de tawhid qui est l'unicité dans les noms et les attributs. Et ceci est un point au sujet duquel nombre de sectes se sont égarés. Certains ont renié totalement les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres les ont fait dévier de leur sens, et ainsi de suite. Et il y a encore des gens qui appellent à ce genre de choses jusqu'à aujourd'hui, wallahu al-musta'an. D'où l'importance pour le musulman de ne prendre sa science de manière générale qu'auprès des gens de la sunna et du groupe. Et ce afin d'être préservé de ce genre d'ambiguïté au sujet de ces points fondamentaux de notre religion. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, a dit, parmi les gens de science, certains ont quant à eux classifié le tawhid en deux catégories, joignant l'unicité dans les noms et attributs à l'unicité dans la seigneurie. Il n'y a pas de gêne en cela, car ce qui est visé est clair dans les deux classifications. Donc vous pouvez trouver, dans les paroles de certains parmi les gens de science, comme à titre d'exemple, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ou son élève, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, que le tawhid se divise en deux catégories. On vient de voir ici qu'il se divise en trois catégories. Mais vous trouverez dans leurs paroles que le tawhid est de deux catégories. Ils vont dire, la première catégorie est l'unicité de la connaissance et l'affirmation. C'est-à-dire, la reconnaissance et l'affirmation de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de ses noms et attributs. C'est-à-dire qu'ils ont joint l'unicité de la seigneurie et l'unicité dans les noms et attributs en une seule et même catégorie. Et la deuxième catégorie, ils ont dit, c'est l'unicité de demande et d'intention, c'est-à-dire l'unicité dans l'adoration. Donc on voit comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit que ce qui est visé est clair dans ces deux classifications. Il n'y a pas de gêne en cela car le sens revient au même. Seulement, il y a une classification qui est plus détaillée que l'autre. Et celle qui est plus détaillée, c'est celle qu'on vient de lire et que vous retrouvez dans la plupart des ouvrages de nos savants au jour d'aujourd'hui. Et tout cela est tiré de l'analyse des textes du Coran et de la Sunna. Passons maintenant aux catégories de shirk. Le shirk, rahimahullah ta'ala, a dit, quant à l'association et shirk, elle se divise aussi en trois catégories. L'association majeure, l'association mineure et l'association subtile. Donc ce qui est visé par le shirk ici, c'est le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, l'invocation, le fait d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors le sacrifice, de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite, parmi les différentes formes d'adoration. On a vu que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, et n'est donc pas permis de lui donner des associés dans celle-ci. Et il est important pour toi de connaître le shirk et ses différentes catégories. En effet, on vient de voir que le tawhid, et notamment l'unicité dans la divinisation, est le message fondamental de l'islam, celui auquel ont appelé l'ensemble des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam. Par conséquent, si ce message est le message fondamental de l'islam, il est impératif pour toi de le connaître. Mais en parallèle de cela, tu dois connaître ce qui s'oppose à ce message. Et ce qui s'oppose à ce message, c'est le shirk, le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tu n'apprends pas, qu'est-ce que le shirk? Quelles sont ses catégories? Quelles sont ses formes? Alors il se peut que tu tombes dans le shirk sans même le savoir et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. C'est pour cela que de la même manière que tu apprends le bien afin de pouvoir le mettre en pratique, tu dois également apprendre le mal et ce afin de t'en préserver et t'en écarter. Et c'est à ce sujet qu'il est rapporté du noble compagnon, Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit, les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien, quant à moi, je l'interrogeais au sujet du mal, par peur de tomber dedans. L'interroger au sujet du mal afin d'en avoir connaissance et de pouvoir s'en préserver, s'en écarter. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que le shirk, l'association, ou que l'on pourrait traduire également par le polythéisme, se divise en trois catégories. La première est l'association majeure. Il dit rahimahullah, l'association majeure entraîne l'annulation des œuvres et l'éternité en enfer pour celui qui meurt sur celle-ci. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors toutes leurs œuvres auraient été vaines. Donc l'association majeure, c'est le plus grave des péchés. Comme il est venu dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, quel est le plus grave des péchés? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, c'est que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Et le shirk, c'est la plus grave des injustices. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, Inna shirka la dhulmun azim. Certes, l'association est une injustice immense. Et l'association majeure, donc, elle entraîne l'annulation des œuvres et l'éternité en enfer pour celui qui meurt sur celle-ci. C'est-à-dire que celui qui commet du polythéisme majeur, de l'association majeure, du shirk, akbar, puis qui meurt sans s'être repenti de cela. Alors l'ensemble de ses œuvres sont annulées et il demeurera éternellement en enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et le cheikh rahimahullah ta'ala, il a mentionné plusieurs preuves de cela. Il a commencé par ce verset de sourate al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit Walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors toutes leurs œuvres auraient été vaines. De qui est-il sujet dans ce verset? Vous voyez que c'est le verset 88 de sourate al-An'am. Donc si vous avez un mushaf à côté de vous, ouvrez-le à la page 138, à laquelle vous trouvez les versets 82 à 90 de sourate al-An'am. Et regardez à partir du verset 83. On va lire directement la traduction des sens rapprochés des versets. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Ibrahim contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons, ton Seigneur est sage et omniscient. Ici, le premier à être mentionné, c'est Ibrahim alayhi salam. Et nous lui avons donné Ishaq et Yaakoub, et nous les avons guidés tous les deux. Et Nuh, nous l'avons guidé auparavant, et parmi sa descendance, Daoud, Suleyman, Ayoub, Yusuf, Moussa et Haroun. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zakaria, Yahya, Isa et Ilyas, tous étant du nombre des gens de bien. De même, Ismaïl, Al-Yassa, Younous et Lout, chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. De même, une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Donc de qui Allah subhanahu wa ta'ala nous parle-t-il ici? Il nous parle des meilleurs des hommes, ses prophètes et ses messagers alayhimu salatu wassalam. Après nous avoir mentionné tes prophètes et ses messagers dans ces versets, il dit subhanahu wa ta'ala « Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun » Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Toutes leurs œuvres auraient été annulées. Si telle est la situation des prophètes et des messagers alayhimu salatu wassalam, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés du polythéisme. Mais ceci nous permet de comprendre que quelles que soient tes œuvres, quelles que soient les adorations que tu voues à Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit le temps que tu consacres à cette adoration, quels que soient les efforts que tu fournis dans cette adoration, si tu voues une seule adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes tes œuvres seront vaines. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc ceci nous montre la gravité du shirk, de l'association majeure qui annule l'ensemble des œuvres où Allah musta'an. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala nous mentionne un autre verset qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma kana lil mushrikeen an ya'muru masajid Allah shahidin ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Il n'appartient pas aux polythéistes, ceux qui donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Donc on voit ici tout d'abord que les polythéistes sont des mécréants. Le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait sortir de l'islam. Ensuite il dit, voilà ceux dont les œuvres sont vaines. Cela annule les œuvres, comme l'auteur rahimahullah ta'ala l'a mentionné. Et dans le feu, ils demeureront éternellement. Donc, on voit que la sanction de l'association majeure du shirk akbar, pour celui qui meurt sur celle-ci sans s'en repentir, c'est qu'il demeurera éternellement en enfer, wal'iyadu billah. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, « Et certes, quiconque meurt sur celle-ci, c'est-à-dire sur l'association majeure, ne sera pas pardonné. » C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer pour lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne au jour de la résurrection. À partir du moment où il est mort en commettant de l'association majeure de laquelle il ne s'est pas repenti, il n'aura pas de pardon. Et le paradis lui sera interdit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, c'est-à-dire à celui qui meurt sur cela sans se repentir. Mais celui qui se repent de son vivant, qui a commis du polythéisme majeur ou autre parmi les péchés, puis qui se repent à Allah subhanahu wa ta'ala de son vivant, améliore sa situation, voit un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci Allah lui pardonne. Mais celui qui meurt sur le polythéisme majeur alors qu'il ne s'en est pas repenti, alors celui-ci Allah ne le pardonne pas. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire tout ce qui est moindre que le shirk, que le polythéisme, ou que la mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala peut le pardonner. Et ceci nous prouve quoi? Ceci nous prouve que le shirk, l'association, est le plus grave des péchés. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne qu'à celui qui s'en repent. Il n'y a que celui qui se repent de son vivant qui se fait pardonner. Quant à celui qui ne s'en repent pas, qui meurt sur celle-ci, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas. Alors que tout autre péché moindre que cela, alors celui qui le commet, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il meurt sur celui-ci sans s'être repenti, si Allah veut, il le pardonnera, et si Allah veut, il le châtiera de par son équité, à hauteur de son péché. Mais il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde son pardon. Tandis que celui qui meurt en ayant commis du polythéisme majeur, du shirk akbar, celui-ci ne sera en aucun cas pardonné. Ensuite, il nous cite un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. » Quiconque associe à Allah autre que lui, Allah lui interdit le paradis. Le paradis, il lui est interdit, c'est-à-dire qu'il n'y entrera jamais. Son refuge sera le feu, pour y demeurer éternellement, et pour les injustes, pas de secoureur. On voit donc à travers ces versets la gravité de l'association majeure, que ceci est le plus grave des péchés, que celui qui meurt sur cela, le paradis lui est interdit, il demeurera éternellement en enfer, walayadu billah. Et on trouve dans un hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, d'après Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui rencontre Allah sans ne lui donner aucun associé entrera au paradis. Et celui qui le rencontre en lui en donnant quelque associé entrera en enfer. » En ayant connaissance de cela, comment une personne peut venir et dire ensuite que l'étude de la science du tawhid, afin de connaître les différentes catégories de tawhid, la manière de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, mais également les différentes formes de shirk, de polythéisme, afin de pouvoir s'en écarter. Comment quelqu'un peut-il dire que ceci est une science qui n'est pas importante, ou qui n'est pas une priorité, ou que la communauté a besoin d'autre chose que cela? Et ainsi de suite, parmi les ambiguïtés prononcées par certains prêcheurs à l'égarement, qui souhaitent par cela écarter les gens de l'apprentissage de cette base fondamentale de leur religion. Il n'y a que le shirk, l'association, qui n'est pas pardonné à celui qui meurt sur celle-ci sans s'en repentir. Le paradis lui est interdit. L'enfer sera sa demeure éternelle, wal'iyadu billah. Donc vous voyez l'importance d'apprendre ces questions et de se les remémorer continuellement, afin de pouvoir concrétiser le tawhid et s'écarter du shirk comme il se doit. Ensuite, il dit, rahimahullah, parmi ces formes, c'est-à-dire parmi les formes d'association majeure, il y a l'invocation des morts et des idoles, comme le faisaient les premiers polythéistes, qui invoquer des morts en pensant que ceci était leurs intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que cela les rapprochait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le font aujourd'hui nombre de personnes parmi les différentes confréries soufis qui adorent des tombes, qui adorent ce qu'ils prétendent être des saints, en leur adressant leurs demandes, en les invoquant, en sacrifiant pour eux des bêtes devant leurs tombes, et ainsi de suite parmi les différentes formes de polythéisme majeur desquelles le musulman doit prendre garde et s'écarter. Également, il dit, il y a l'imploration de leur secours, l'imploration du secours des morts, c'est-à-dire en les invoquant. Également, il y a le vœu al-nadr, qui est le fait de s'imposer une chose qui n'est pas obligatoire pour obtenir la satisfaction de celui à qui on voue ce vœu. Donc cela est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y en a certains qui font des vœux pour autre qu'Allah, comme pour des morts, des saints, des walis ou autres. Et ceci est une forme de polythéisme majeur. Également, et le sacrifice pour eux. En effet, le sacrifice, c'est une adoration qui ne doit être vouée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim rahimahullah, d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala, il dit ainsi que d'autres choses semblables. C'est-à-dire ainsi que d'autres adorations que certaines personnes vouent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci fait partie de l'association majeure. Ensuite, il dit deuxièmement, l'association mineure désigne tout ce dont l'appellation shirk est confirmée dans les textes du Coran ou de la Sunna, mais qui n'est pas de l'association majeure, comme faire de l'ostentation dans certaines œuvres, jurer par autre qu'Allah, dire c'est ce qu'Allah a voulu et ce qu'a voulu un tel, et autre chose semblable. Donc vous pouvez trouver dans certains textes, comme on va le voir par la suite dans les hadiths que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, qu'une chose, un acte ou une parole est qualifiée comme étant du shirk, mais que les autres textes nous prouvent que l'auteur de cette parole ou de cet acte ne sort pas de la religion de l'islam. Donc si tel est le cas, alors ceci relève de l'association mineure, qui, comme on va le voir, ne fait pas sortir son auteur de la religion, ne lui fait pas encourir l'éternité en enfer, mais elle s'oppose à la perfection du tawhid obligatoire, car c'est le plus grave des péchés après l'association majeure. Donc il nous a mentionné certains hadiths, nous prenons cela. Il dit, rahimahullah, ceci est prouvé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, La chose dont j'ai le plus peur pour vous est l'association mineure. Il fut interrogé à son sujet et répondit, c'est l'ostentation. Donc on voit très clairement dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même nommé l'ostentation comme étant de l'association mineure. Toutefois, il est nécessaire de souligner que ce qui est visé par l'ostentation ici, c'est quoi? C'est l'ostentation dans certaines œuvres, comme l'a dit l'auteur, rahimahullah ta'ala. Regardez dans le paragraphe au-dessus. Comme faire de l'ostentation dans certaines œuvres. Car celui qui voue l'ensemble de ses œuvres autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il ne prie que lorsqu'il est avec les gens, mais lorsqu'il est seul, il ne prie pas. Il ne prie pas du tout. Il ne fait pas ses prières obligatoires. Mais il prie simplement devant les gens pour faire croire qu'il prie. Lorsqu'il est seul, il ne jeûne pas, mais il jeûne lorsqu'il est devant les gens pour faire croire qu'il jeûne comme eux. Et ainsi de suite. Alors ceci est la situation de qui? Ceci est la situation des hypocrites. D'une hypocrisie majeure. Qui font de l'ostentation dans la base et l'ensemble de leurs œuvres. Et cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'ils seront au plus bas fond du feu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. En réalité, les hypocrites seront au plus bas fond du feu. Donc, ce qui est visé par l'ostentation ici, c'est l'ostentation dans certaines œuvres, comme le fait qu'une personne croyante commence à prier, et lorsqu'elle sait qu'elle est observée, alors elle s'applique plus dans sa prière. Et elle fait cela pour rechercher les compliments et les éloges des gens. C'est cela qui est visé par l'ostentation qui relève de l'association mineure. Et pour plus de détails à ce sujet, vous pouvez revenir, pour ceux qui n'étaient pas présents, au cours que j'ai donné durant le mois de Ramadan, dans lesquels nous avons fait deux assises au sujet de l'ostentation et dans lesquels nous avons vu de nombreux points à ce sujet. Vous pouvez le retrouver dans la série de cours intitulée Les provisions utiles à l'adorateur. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, il dit aussi, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jure par une chose autre qu'Allah a certes commis de l'association. Et dans un autre hadith, celui qui jure par autre qu'Allah a certes commis de la mécréance ou de l'association. Donc on voit dans ces hadiths que le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été appelé association. Toutefois, ceci relève à la base de l'association mineure, car son auteur ne sort pas de la religion de l'islam. Il est donc interdit pour le musulman de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit de jurer par la Mecque ou par la Kaaba ou par la vie de tes parents ou la tête de tes parents. Et ainsi de suite parmi les choses qu'on entend et qui sont courantes sur les langues de nombre de personnes. Tout ceci relève de l'association mineure, qui est un très grave péché. Ce n'est pas une chose insignifiante et à prendre à la légère. Ne pense pas que sous prétexte que ce ne sont que des mots auxquels tu n'accordes peut-être aucune importance, ceci n'est pas grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au contraire, ceci est un grave péché duquel il t'incombe de te repentir si tu te rends coupable de celui-ci. Et le musulman, lorsqu'il veut jurer, il ne jure que par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, il dit aussi, ne dites pas, c'est ce qu'Allah a voulu et ce qu'a voulu un tel. Dites plutôt, c'est ce qu'Allah a voulu puis ce qu'a voulu un tel. Voyez la nuance entre les deux phrases. Dans la première, on a le mot et dans la seconde, on a le mot puis. Et ceci fait partie de la perfection du tawhid et de la révération que l'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas lui donner d'associer même dans ces termes, en disant c'est ce qu'Allah a voulu et ce qu'a voulu un tel. Non, tu ne dis pas cela. Tu n'associes rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu dis plutôt c'est ce qu'Allah a voulu puis ce qu'a voulu un tel. Et de la même manière, lorsque l'on entend certaines personnes dire s'il n'y avait pas un tel, je ne m'en serais pas sorti, ou des choses similaires, tu dois renvoyer la chose à Allah subhanahu wa ta'ala tout d'abord. Si ce n'était Allah puis un tel, je ne m'en serais pas sorti. Donc on voit à travers cela que le croyant, il doit donner une grande importance également aux termes qu'il emploie lorsqu'il parle. Et qu'il y a certains termes qui peuvent porter atteinte à sa croyance, porter atteinte au tawhid, et qui font partie des graves péchés. Et ceci nous montre encore une fois l'importance de l'étude de cette science. Et tous ces sujets, ils sont traités de manière très détaillée dans le livre immense de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala intitulé Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Et j'espère qu'on aura l'occasion, inshallah ta'ala, de le lire et de l'étudier ensemble. Ensuite, il dit rahimahullah, cette sorte d'association n'entraîne pas l'apostasie, ni l'éternité en enfer, mais elle s'oppose à la perfection du Tawhid obligatoire. Donc l'association mineure, celui qui la commet, on ne dit pas qu'il est sorti de l'islam. On ne dit pas qu'il sera éternellement en enfer. Mais tout cela s'oppose à la perfection obligatoire du tawhid. Le tawhid, il est obligatoire pour toi de veiller à ce qu'il ne soit souillé par aucune forme d'association, qu'elle soit majeure ou mineure. Mais tu dois purifier ton cœur de toute forme d'association. D'autant plus que certains parmi les gens de science ont mentionné que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Ceci englobe aussi bien l'association majeure que l'association mineure. C'est-à-dire que celui qui meurt en ayant commis de l'association mineure et qui ne s'est pas repenti de celle-ci, alors, selon l'avis de certains parmi les gens de science, il ne sera pas pardonné. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala le châtiera à hauteur de cette association, puis ensuite, il sera introduit au paradis. Car il n'a pas commis d'association majeure et que c'est un croyant. Mais cette association ne lui sera pas pardonnée. Et d'autres ont dit qu'elle fait partie de la globalité des péchés qui sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il la pardonne et si Allah veut, de par son équité, il le châtiera à hauteur de celle-ci. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que l'association, qu'elle soit majeure ou mineure, c'est le plus grave des péchés. Il incombe aux croyants de s'en écarter et de ne pas prendre cela à la légère. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit: la troisième est l'association subtile. Et celle-ci, elle est appelée subtile, car elle peut même échapper à son auteur. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il tombe dedans sans même s'en rendre compte. D'où l'importance de multiplier l'invocation qui nous est rapportée dans certains hadiths et qui est de dire Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'associer quoi que ce soit alors que je sais, et j'implore ton pardon pour ce que je ne sais pas. C'est une invocation importante qu'il convient aux musulmans d'apprendre et d'adresser à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit donc, rahimahullah, la preuve à son sujet, au sujet de l'association subtile, est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voulez-vous que je vous informe au sujet de ce qui me fait plus peur pour vous que le faux messie? Ils répondirent, c'est-à-dire les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, bien sûr, au messager d'Allah. Il dit, c'est l'association subtile. L'homme se lève pour prier et embellit sa prière car il voit que le regard d'un homme est porté sur lui. Il embellit sa prière car il voit qu'on le regarde. C'est une chose subtile, il se peut que la personne ne s'en rende même pas compte. C'est pour cela que tu dois sans cesse analyser ton cœur et le purifier de toute forme de polythéisme. Ensuite, il dit, rahimahullah, et il est permis de classifier l'association et shirk en seulement deux catégories, l'association majeure et l'association mineure. Donc on a vu ici que l'association est de trois catégories, association majeure, association mineure et association subtile. Mais il nous dit, le cheikh rahimahullah, il est permis de dire seulement qu'il y a deux catégories, association majeure et association mineure. Pourquoi? Il nous dit ensuite à la page suivante, quant à l'association subtile, elle fait partie de ces deux catégories. C'est-à-dire qu'il y a des formes d'association qui sont claires, qui ne sont pas subtiles, parmi les formes d'association majeure et parmi les formes d'association mineure. Et il y a des formes d'association subtiles qui relèvent de l'association majeure, et il y a des formes d'association subtiles qui relèvent de l'association mineure. C'est pour cela qu'il nous dit, elle peut faire partie de l'association majeure, à l'exemple de l'association des hypocrites. En effet, ils cachent leurs fausses croyances et montrent l'islam en apparence, par ostentation et peur pour leur personne. Les hypocrites, leur association, elle est subtile. Ils montrent en apparence l'islam. Et il cache au fond de la mécréance. C'est quelque chose qui est subtil, difficile à distinguer. Et cela relève de l'association majeure. Ensuite, il dit, rahimahullah, elle peut aussi faire partie de l'association mineure, à l'exemple de l'ostentation, comme on l'a vu dans le hadith de Mahmoud ibn al-Abid et celui d'Abu Saïd mentionné précédemment, et Allah est le garant de la réussite. Dans le hadith que l'on a vu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La chose dont j'ai le plus peur pour vous, l'association mineure », il fut interrogé à son sujet et répondit: c'est l'ostentation. Et le hadith d'Abu Saïd, c'est le dernier que l'on vient de voir, l'association subtile, l'homme se lève pour prier et embellit sa prière car il voit que le regard d'un homme est porté sur lui. Celui-ci est croyant, mais il commet cette forme d'ostentation qui annule seulement l'œuvre dans laquelle elle est commise et non pas l'ensemble des œuvres. Et il incombe au croyant, comme on a dit, de se préserver de toute forme de polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur. On a donc terminé avec cette leçon et les différentes catégories de tawhid et de shirk. On verra dans le cours de demain, inshallah ta'ala, la leçon 5 qui parle de la bienfaisance, al-ihsan. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.